Alors, bonjour tout le monde, Pasteur Pat ici qui vous parle. Et aujourd'hui, on m'a demandé de parler sur deux sujets et je les trouve très intéressants. Le premier sujet, c'était l'Ecclésiaste et le second, c'était les conséquences de la chute sur la création. Et puis, bon, évidemment, quand on m'a parlé de partager sur l'Ecclésiaste, malheureusement, j'ai eu une petite réaction, comme souvent dans le passé, je veux s'ajuster ça ici, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent eu une réticence dans ma vie et je l'ai beaucoup enseigné pourtant, mais j'ai souvent eu une réticence d'enseigner l'Ecclésiaste ou de parler de l'Ecclésiaste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, en le réétudiant, en me replongeant dedans, évidemment, j'ai trouvé que c'est un livre remarquable. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette réticence à l'enseigner. Puis, bon, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis toujours très content. Quand je suis dedans, quand je l'enseigne, je suis content de pouvoir le partager. Et l'autre sujet, comme j'ai dit, c'était les conséquences de la chute. Les conséquences de la chute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en méditant sur ces deux thèmes-là, j'ai réalisé que les deux thèmes allaient très bien, très très bien ensemble. Et on va regarder pourquoi dès à présent. Si on prend notre Bible, puis on tourne dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Hein, chapitre 3, c'est là où là, il y a la chute. Un peu avant, on voit que Dieu va placer deux arbres bien, bien différents. Dans le jardin, il va y avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et Dieu va mettre une interdiction en disant, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Certainement, tu vas mourir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là vient le chapitre 3, où, comme disait un de mes amis, on voit une pomme, deux poires, puis bien des pépins. Hein? Une pomme, deux poires, bien des pépins. Évidemment, ce n'est pas une pomme, on ne sait pas c'est quoi comme fruit, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y avait bien, bel et bien deux poires, puis bien des pépins après. Il y a eu la chute. Puis, chapitre 3, verset 1, on voit le serpent qui va interpeller la femme et qui va lui dire ceci. Hein? Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, il y a un petit doute qui est déjà là. La question du serpent fait questionner la femme et lui insère un doute. Mais le serpent ne se contente pas de juste lever un doute. Il va aller plus loin, il va pousser la hardiesse. Et là, il va dire au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Point final. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Là, on voit la chute dans sa plus simple expression. On voit l'homme et la femme manger du fruit défendu, et là, il se passe quelque chose dans la perception qu'ils ont des choses. Hein? Et c'est ça la chute. Donc, si avant la chute, hein, il n'y avait qu'un seul domaine de connaissance, une seule sphère de connaissance, qui était la sphère de la connaissance de Dieu, okay, et puis que dans cette sphère de connaissance-là, évidemment, l'homme avait accès à une petite portion de la connaissance divine. Limité. Évidemment, c'est une créature. C'est une créature limitée. Il ne peut pas avoir une compréhension complète de ce que Dieu connaît des choses. On s'entend? Donc là, et il y a cette parfaite harmonie entre le peu que l'homme connaît et le beaucoup que Dieu connaît. Il y a une harmonie. Les deux s'harmonisent. Hein? Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait venir tous les animaux du jardin à Adam, et Adam dit, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui-même. Il arrive à la même conclusion que Dieu sur les choses. Il y a cette harmonie entre ce que Dieu pense des choses et ce que Adam pense des choses. Avec la chute, malheureusement, il va y avoir ce décalage. Hein? Il va y avoir un décalage où est-ce que dorénavant, la connaissance ou la perspective de l'être humain est décalée. Je l'ai fait séparer, j'aurais pu tout aussi bien faire hein, une intersection ici. Pourquoi j'aurais pu faire une intersection? Parce que, évidemment, certaines des choses que Dieu, que l'homme va penser, que l'homme va connaître, que l'homme va savoir, que l'homme va croire, vont correspondre avec ce que Dieu dit des choses, avec ce que Dieu pense des choses. Par exemple, Dieu est contre l'adultère, et dans certaines cultures, il n'y a pas seulement en tout cas, dans l'humanité, c'est loin d'être seulement les croyants qui croient que l'adultère est mal. Donc, quand ils disent que l'adultère est mal, hein, quand ils affirment ça, ils affirment la même chose que Dieu, et donc leur idée de l'adultère correspond à l'idée de Dieu sur l'adultère. OK? Donc, pourtant, souvent, dans bien des points, peut-être même dans la majorité des fois, il y a ce décalage entre la pensée de Dieu et la pensée humaine. OK? Il y a ce décalage-là entre la pensée de Dieu et la pensée humaine. Un décalage sur deux points. Sur deux points. Un décalage intéressant sur deux points. Le premier point, hein, c'est la perception. OK? Puis l'autre décalage, ça va être sur la raison. OK? Donc, la perception et la raison. Ici, hein, il y a deux grands courants de pensée dans l'histoire de la pensée humaine. Où est-ce qu'on avait l'empirisme? L'empirisme. Hein, et le rationalisme. OK? Rationalisme. L'empirisme et le rationalisme. Certains pensent qu'on peut arriver à une juste compréhension des choses par les empiriquement, c'est-à-dire par les sens, par la perception. Certains pensent qu'on va y arriver par la raison. Et il y a eu toujours ce genre de conflit, de combat, de division au sein des penseurs dans l'histoire, où est-ce que certains disaient non, non, c'est empiriquement, d'autres disaient non, non, c'est rationnellement. Mais on voit que le décalage se fait à partir du moment où l'homme mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a ce décalage-là où est-ce que la perception est biaisée. On le voit, la femme voit que l'arbre est bon à manger alors que Dieu lui avait dit non. Et pour ouvrir l'intelligence, la raison, on voit ce décalage-là entre ce que Dieu dit des choses, ce que Dieu pense des choses et la perception, donc l'aspect empirique et l'aspect rationnel. Il y a vraiment cette séparation, ce décalage des choses. Maintenant, écoutez bien. Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Il va se révéler tant dans la nature, hein, les perfections invisibles de Dieu sont visibles comme à l'œil. Perception. Et il va aussi se révéler, bon, dans l'histoire et ainsi de suite, mais dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on va pouvoir lire et comprendre? Raison, intelligence. Donc, le décalement qui s'est opéré à la chute, Dieu va le combler de deux façons. Tant par la révélation naturelle que par la révélation spéciale. Révélation naturelle, la nature et ainsi de suite. Révélation spéciale, la parole de Dieu, Jésus-Christ sur terre, les miracles, les signes, et ainsi qu'on voit dans les Écritures. Bon. Il faut comprendre ceci, par contre. Okay? Donc, la chute a un impact sur la création à commencer par nous, par notre perception et par notre raison. Et c'est exactement ça que l'Ecclésiaste va, c'est à ça que l'Ecclésiaste va s'attaquer. Parce que l'Ecclésiaste, il va parler de la futilité. De la futilité des choses. Il va parler tant de la futilité de la recherche empirique que de la futilité d'étudier, d'essayer de comprendre les choses par l'intelligence. Mais est-ce que c'est futile de... Non. Ce qu'il va viser, spécifiquement, il va viser quand ces choses-là sont faites à partir de l'arbre de la connaissance bien du mal. Quand c'est fait à partir dans la séparation qui s'est faite avec la chute entre le bien et le mal. Hein? Ce genre de mur-là qui s'est établi, hein, ce décalage qu'on a parlé ici entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'Ecclésiaste va parler de la futilité de ça, de la vanité, tout est vanité, qu'il va dire. Verset 1-17, regardez avec moi dans verset 1-17 de l'Ecclésiaste, je vais prendre ma Bible ici, ça va être mieux. Ah, je peux fermer ça, oui. Ça ne sera pas bien long, je vais juste... arranger ceci. Bon. OK. Regardez quand dans Ecclésiaste, verset 1, le chapitre 1, et verset 17. « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai aussi compris que cela est la poursuite du vent. » La poursuite à appliquer son cœur à la raison, à la sagesse, à connaître les choses, poursuite du vent. Sans Dieu. OK? Ensuite, 2-4. J'exécutais de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins, des vergers, j'y plantais des arbres fruitiers, j'ai créé des étangs pour arroser la forêt en croissant, j'achetais des serviteurs. Et là, on voit toute une poursuite de qu'est-ce qu'il voit, de qu'est-ce qu'il peut toucher, hein, de ce que les sens peuvent lui procurer. Il va poursuivre deux objectifs. Et les deux objectifs ne sont que poursuite du vent, ne sont que vanité. Et c'est ça l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'Ecclésiaste? Il veut nous rappeler que notre existence terrestre, aussi belle soit-elle, et il y a plein de poursuites légitimes qui se fassent, qui peuvent se faire, mais ultimement, ce qui va donner un sens, c'est Dieu. C'est apprendre à recadrer, à faire ce recadrage-là entre ce que Dieu pense des choses et ce que moi, de moi-même, à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je peux percevoir des choses. Et ça, c'est une conséquence funeste pour l'homme, cette séparation. En d'autres termes, on pourrait dire cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu. OK? Maintenant, la seule façon que que l'être humain peut s'accorder, c'est justement à partir de la vérité. Évidemment, dans ça ici, et je l'ai dit dans cette partie-là où est-ce qu'on voit un genre d'intersection avec ce que Dieu pense des choses, tant dans la science, que tant dans l'histoire, tant hein, quand les historiens actuellement, il y a plusieurs historiens, même non chrétiens, qui affirment plein de choses sur la naissance, la vie de Jésus-Christ. Mais quand les historiens disent ce que les Écritures disent, bien, ils s'accordent avec Dieu. Ils disent la vérité. Maintenant, quand la science s'accorde avec Dieu sur les choses, les scientifiques disent la vérité. Maintenant, évidemment, on l'a déjà dit par le passé, hein, l'absence de preuves, ce n'est pas une preuve d'absence. Alors, s'il y a des choses sur lesquelles la Bible ne parle pas, ben là, c'est, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on est par rapport à la pensée de Dieu. Dieu n'a rien dit là-dessus. Fait que c'est à nous d'évaluer les choses avec notre tête, avec notre cœur, en prière, en connaissance des Écritures, en essayant de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens, hein? Et être toujours prêt de dire, ben écoute, ce que je sais en dehors des Écritures, ben je le sais avec une main ouverte, parce que je peux me tromper. Je peux simplement me tromper et je dois pouvoir être libre de me remettre en question. Et même ce que je pense savoir des Écritures, quand on va me démontrer que j'ai tort sur un thème particulier avec les Écritures, ben, faut que je sois prêt à me remettre en question. Sinon, je ne tiens pas les choses avec une main ouverte, je les tiens avec une main fermée et je veux garder. Je n'ai pas cet esprit d'humilité d'être enseignable. Hein? Et Dieu veut un cœur contrit, un cœur enseignable, parce que c'est là qu'il peut nous enseigner. OK? Donc, l'arrière-plan du livre de l'Ecclésiaste, juste pour qu'on puisse cadrer un petit peu notre étude, évidemment, le livre de l'Ecclésiaste, ça a été écrit probablement à toute fin pratique par Salomon. Salomon, cet homme, l'homme le plus sage hein, qui a vécu, qui était d'une humilité impressionnante, et c'est pour ça que Dieu lui a donné cette sagesse-là, qui dépasse celle de tous les autres. Hein, il pouvait discourir sur toutes sortes de choses dans la nature. Il était vraiment unique comme roi, comme être humain. Il est unique dans l'histoire de l'humanité. Sauf peut-être, évidemment, Jésus-Christ qui est vraiment lui unique. Okay? Parce qu'il est dans l'incarnation, il est Dieu fait homme, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il partage notre humanité, il partage la divinité de Dieu. Il est parfait. Maintenant, fait que Salomon, c'est un gars qui est bien particulier, qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Et Salomon, il va avoir une vie complètement déréglée. Il va s'égarer loin de la loi de Dieu, loin de ce que Dieu dit des choses. Il va s'égarer. Hein? Premièrement, Dieu avait dit qu'un roi ne devait pas se marier avec plein de femmes. Eh bien, il va les multiplier, ces femmes. Hein, il va, c'est un concours de multiplication, là, il va se trouver des femmes ici et là, il va se trouver plein de femmes. Et il va se trouver des femmes de partout. De toutes sortes de et ces femmes-là vont l'entraîner à s'égarer loin de ce que Dieu dit des choses. Et cet égarement-là va le projeter dans une quête de la connaissance, quête des jouissances de la vie, dans une quête rationnelle ou empirique des choses. Et là, il va arriver à la fin de sa vie et il va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué son tour, il a manqué sa vie, alors qu'il était parti avec une humilité et alors que Dieu lui a donné une sagesse à plus finir, il s'est planté. Ben comme faux. Hein, il est allé, il a construit le temple à l'Éternel, c'est vrai, mais il a construit des temples à plein d'autres dieux aussi. Il s'est vraiment planté. Et il s'est tellement planté, on se souvient là, ceux qui ont suivi le cours de Sourate de l'Ancien Testament, qu'à cause de lui, vous vous souvenez le film Air de glace? Quand le petit écureuil, là, il est là avec sa noix, là. Puis là, il essaie de l'enterrer, clac, clac, clac. Là, il y a comme une fissure qui commence. Là. Puis là, à un moment donné, ça craque, puis là, tout se sépare. Ben, Salomon, c'est ce petit écureuil-là. Hein, ce qui va commencer, ça ne se fera pas durant sa vie, mais après sa mort, le royaume hein, d'Israël va se scinder en royaume du sud et en royaume du nord. Et ça, c'est à cause des péchés de Salomon. Donc, il y a vraiment une conséquence énorme hein, à ce que Salomon a fait et ce que Salomon a dit. Et donc, mais Salomon revient et écrit l'Ecclésiaste. Il écrit l'Ecclésiaste Il veut vraiment démontrer, et c'est pour ça que tout au long de l'Ecclésiaste, c'est peut-être ça qui est un petit peu déprimant, hein, c'est que il faut comprendre qu'en tant qu'auteur, à ce moment-là, il n'y avait pas personne qui était aussi sage, ou en tout cas, Dieu avait une sagesse exceptionnelle, je l'ai dit, mais aussi la richesse de Salomon est incroyable. Il a connu tout ce qu'il avait à connaître, là. Il a pu expérimenter toutes les jouissances de la vie à l'extrême. Et il est arrivé à la fin de sa vie, il était absolument abasourdi de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vécu. Hein? Et donc, les mots pour vanité vont arriver après une quarantaine de fois dans le livre. Tout est vanité, tout est futile. Ça ne sert à rien. Un genre de cynisme que seules des années, hein, d'être déçu par la vie, malgré l'abondance, malgré tout ce que tu as à ta disposition, tu arrives et tu dis, tout est vanité, rien, ça ne sert à rien. Déprimé au maximum. Ensuite, une trentaine de fois, l'Ecclésiaste va parler de « sous le soleil ». « Sous le soleil », quand vous lisez l'Ecclésiaste, c'est une phrase clé. Une phrase clé qui veut dire « sur terre, en deçà, hein, ou de ce côté-ci de la chute ». De ce côté-ci de la chute. OK? Sous le soleil. En dehors du point de vue de Dieu sur les choses. OK? Sous le soleil. Une trentaine de fois. Et qu'est-ce qui est fantastique? C'est que Dieu va revenir une quarantaine de fois aussi. Alors, il y a ce parallèle où il y a cette tension que l'auteur de l'Ecclésiaste va vouloir faire, une tension entre ce que Dieu dit des choses, que Dieu, la vie avec Dieu et la vie sous le soleil, c'est-à-dire la vie qui est vécue juste dans son sens temporel, indépendamment de ce qu'il peut y avoir, indépendamment de ce que Dieu dit des choses, indépendamment de ce qu'on peut penser, hein, ou de qu'est-ce qu'on peut penser en fonction de la révélation divine. Donc, sous le soleil, la vanité. Parce que dans cette optique-là, il y a comme ce genre de parallèle entre ce qui est sous le soleil et au-dessus du soleil, qui est plus grand que le soleil, qui est plus grand que la création, à savoir Dieu lui-même. Okay? Donc, ces deux perceptions, est-ce que tu vois les choses d'une perspective qui est au-dessus du soleil, ou est-ce que tu vois les choses d'une perspective qui est en dessous du soleil, qui est très temporelle, très limitée, très comme ça, hein, dans notre vie. Et donc, tout au long du livre, l'Ecclésiaste va nommer une dizaine de futilités, une dizaine de vanités, une dizaine de choses qui mènent à rien sous le soleil. En dehors d'une perspective au-dessus du soleil. Okay? Il va y avoir la sagesse dans 2, 15 et 16. On l'a vu aussi dans 1, 17. On va voir aussi le travail, tous les efforts qu'il a fait, 2, 19 à 21. Il s'est donné à cœur, hein, dans le travail, dans toutes sortes de choses. Il s'est essayé de te donner des buts. Ensuite, l'avarice, il a voulu gagner. C'est une futilité, l'avarice. Hein? La gloire, il a été. Tout le monde venait le voir, hein, du bout du monde, la gloire. C'est une autre futilité, une autre. Dans 4.16. Alors, on va regarder ça dans 4.16. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La popularité est une vanité, est une poursuite du vent. Si tu vis seulement pour la popularité, les gens vont venir à un moment donné et ils feront plus que toi. Tu vas perdre cette popularité-là. C'est une poursuite du vent, ce n'est que futilité. Euh, Verset 5-10, « Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? » Encore une fois, hein, de vouloir manger, être insatiable à toutes sortes d'affaires. Ceux qui, hein, il accueille tout le monde se nourrit, il est content de voir ça, mais ça n'en a rien de plus. Il est satisfait de voir qu'il rassasie tout le monde, mais ça ne donne rien de plus. Une autre vanité. Verset 6-9, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs, c'est encore là la vanité, la poursuite du vent, la convoitise des yeux, poursuite du vent. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Verset 7-4, le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Mieux vaut entendre la réprimande. C'est pas le bon verset que je regardais. Enfin. 8-10. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Alors, il y a des choses dans la vie qu'on voit, hein, les avantages purement humains. On va voir, on va se promener dans les cimetières et on va voir des grands monuments érigés à des monstres ou à des gens qui n'avaient aucune morale humaine, hein, aucune bonté humaine. Ils ont eu des médailles, ils ont eu des monuments, tandis qu'il y a des gens qui étaient peu fortunés ou qui essayaient de faire le mieux qu'ils pouvaient et les autres sont comme oubliés. Donc, les récompenses humaines, le mérite humain, vanité de vanité, tout est vanité. Alors, tout au long du livre de l'Ecclésiaste, il y a cette énumération des choses qui sont vaines sous le soleil. Sous le soleil. Conséquence de la chute. On recherche les choses en dehors de la perception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire dans la perception de la connaissance du bien et du mal. Donc, d'une perception sous le soleil, plutôt que d'avoir un point de vue au-dessus du soleil. OK? Ensuite, ce qui est intéressant, par exemple, c'est, et je vais terminer avec ça, pour le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 12. Du reste, verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, évidemment, cette mise en parallèle d'une vie dont la perspective, elle est céleste versus une vie dont la perspective, elle est terrestre. Et ce n'est pas pour, dénigrer les choses terrestres, là. C'est vraiment pas ça. Au contraire, on peut se réjouir. C'est agréable de manger, faire bonne chère avec nos amis, hein, être ensemble, jaser, parler, être sage avec notre argent, faire des bons investissements, faire des bonnes choses. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il faut se rappeler que ce ne sont que des choses temporelles. Et si on les fait à l'exclusion des choses célestes, à l'exclusion de ce que Dieu pense des choses, et là, ça devient problématique. C'est là que le problème commence. Amen. Que Dieu vous bénisse.